Yoram Lecoeur, avocat du diable.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Voix lumineuse et pleine d'humour au téléphone, voilà Yoram Lecoeur. Et surtout, voilà un avocat qui a fréquenté pas mal de livres d'histoire. L'histoire de l'Holocauste, vue sous le prisme de l'affaire Kassner, du nom de celui qui sauva 1684 juifs au moment où les déportations commencent en 1944 en Hongrie et qui fut condamné en Israël pour l'avoir fait. À la fin de son roman bien nommé « L'âme au diable », notre invité dresse son arbre généalogique avec le nom des membres de sa famille dotés d'une bonne étoile, puisqu'ils se sont retrouvés dans ce fameux train. Roman documenté et plein d'humour hypochondriaque qui souligne que Kassner a été assassiné pour avoir été le seul juif de l'histoire à en avoir sauvé d'autres. Comme dit son auteur, on dirait presque une histoire juive.
Tico-tico-tick, oh tico-tico-tock, this tico-tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo, it's tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a tete-a-tete at eight, so speak-o-tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo, the one my heart has gone to main, I'm going to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere, he knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my tico's terribly smart, he tells me gently, sentimentally at the start. Oh, oh, I hear my little tico, tico calling, because the time is right and shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, 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 tock. I've got a date at eight, hard to celebrate with my friend Tico, Tico, Tock. A birdie who goes nowhere, he knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my tico's terribly smart, he tells me gently, sentimentally at the start. Oh, oh, I hear my little tico, tico calling to me, the time is right, the shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, 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 tock. Tico, 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 tock.
Mais bonjour Yoram Lecoeur.
Bonjour Yasmine.
Ce tico-tico des Andrews Sisters vous met dans quelle humeur? Est-ce que c'est une humeur ambivalente?
C'est une humeur ambivalente, effectivement. Il y a à la fois de la joie et de la nostalgie. Quand on entend les Andrews Sisters, c'était le groupe préféré de ma mère, en réalité. C'est la musique qu'elle adorait par-dessus tout. J'en parle d'ailleurs dans le livre à un moment. C'est la musique sur laquelle elle dansait adolescente. Donc il y a effectivement, à la fois de la joie, c'est évident, mais aussi cette part de nostalgie qui rythme aussi un peu ce livre.
La radio, les journaux intimes, les récits collectés auprès de la famille, ça c'est ce qui fait la matière de votre livre. Mais avant de l'ouvrir, ce livre, essayons de patiner un peu, Yoram.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Moi.
Dites-nous tout, vous avez patiné sur les valses de Strauss?
Oui, dans mon enfance, j'ai patiné sur les valses de Strauss au bois de la Cambre, en Belgique, puis j'ai passé 3 ans là-bas, entre Israël et la France.
Ça veut dire quoi, Yoram?
Yoram, c'est un prénom israélien, donc c'est le nom d'un roi ou d'un général de la Bible, je crois. Mais la signification, comme tous les noms en « ye » en hébreu, c'est par référence à Dieu, Yéhovah. Et « horam », c'est la racine du verbe « lever ». Donc c'est Dieu à soulever. En clair, la traduction, ce serait l'élu. L'élu du peuple élu, ça fait quand même lourd sur les épaules d'un petit garçon.
Cher Yoram, alors votre enfance en tout cas n'aura pas été qu'une petite valse de Strauss. Dans certaines pages de votre livre, vous vous racontez qu'au moment de la séparation de vos parents, vous vivez un véritable enfer domestique.
Mais c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, ma sœur et moi, dans un appartement très cossu du 16e arrondissement, avec une mère qui a perdu totalement les pédales, je dirais, et qui n'arrivait absolument plus à faire face à ses obligations élémentaires, nous faire à manger, suivre notre scolarité, et non seulement ça, mais elle se levait pas le matin, elle buvait, elle s'est mise à boire de l'alcool, mélangée à des médicaments. En clair, je la retrouvais dans des états cataclysmiques en rentrant de l'école. Je devais en fait m'occuper, j'étais devenu le père de ma mère, mon père étant parti à ce moment-là. En fait, rétrospectivement, on relevait vraiment des services sociaux. Mmh. On était dans une situation d'abandon. Mais moi, je ne voyais pas les choses de cette manière. Et mon seul souci était de masquer tout ça, que personne ne sache ce qui se passe chez nous.
Vous êtes né à Tel Aviv en 1960, mais vous n'allez pas y rester. Donc dans une famille ashkénaze, donc ça c'est tout un programme. Sur laquelle vous mettriez quels mots, quels adjectifs sur cette famille ?
Austro-hongroise. Mmh. Voilà, je suis un résidu de l'Austro-Hongrie.
Profondément athée, comme famille.
Profondément athée, particulièrement du côté de mon père. Ma mère athée également, mais avec moins de conviction, je dirais. Mon père était un bouffe-rabbin.
Ça se dit ?
Ça se dit pas, mais je le dis.
Ouais, d'accord. Avec, avant de raconter l'histoire de cette famille et de vos parents, une question essentielle, c'est... À l'époque, hein, c'était « Que va devenir plus tard le petit Yoram Lecker ?»
Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Vincette qui veut dire Zorro.
Eh ben vous voilà démasqué.
Absolument. C'est ce que je dis un peu sous forme de boutade. Si j'ai choisi le métier d'avocat, c'est pour pouvoir mettre le déguisement. Oui, c'était le héros de mon enfance, Zorro, comme de beaucoup d'enfants d'ailleurs. Et c'est un thème récurrent dans notre famille, que les affaires de justice, d'injustice, de réparation de l'injustice. Bien sûr que l'affaire Kastner en est l'illustration dans ce livre.
Et donc vous êtes devenu ce qu'on appelle un Drehkopf.
C'est ce que ma mère disait, parlant des avocats, Drehkopf étant un mot yiddish qui veut dire quelqu'un qui retourne en fait la tête, qui retourne la situation de manière permanente. Je ne pense pas être devenu un Drehkopf, c'est péjoratif Drehkopf quand même. Mm-hmm. Mais oui, c'est une façon courante de qualifier les avocats, ou en tout cas la vision courante qu'on peut avoir des avocats et qui est fausse, en tout cas qui n'est pas toujours exacte.
À quel moment vous entendez parler pour la première fois dans la famille de l'histoire du train Kastner ?
En fait, je crois avoir quasiment toujours entendu parler de cette histoire. En fait, mes parents se disputaient régulièrement sur cette affaire, puisque c'était une affaire qui a beaucoup divisé Israël. Et bien que mon père ait été un homme profondément de la gauche israélienne, et donc qui devrait a priori être favorable à Kastner, il avait une haute estime du juge qui a rendu ce fameux jugement condamnant Kastner, qui s'appelait le juge Alevi. Mon père était avocat à Tel Aviv, plaidait régulièrement devant ce juge-là, qui était d'origine allemande, comme mon père. Et donc, il avait une grande estime. Et il ne savait pas ce qui a pu se passer par derrière. Et il l'a appris très tardivement, lorsque moi, j'ai récupéré des archives et que je suis allé les lui montrer. Et là, il a effectivement réalisé qu'il y avait un problème, alors qu'il avait jusque-là défendu bec et ongle ce juge qui a dit que Kastner, en négociant, avait vendu son âme au diable, mm-hmm. alors que ma mère avait été sauvée par cet homme que ce juge avait condamné, et elle ne pouvait pas entendre ce discours.
Donc il y avait une discorde même au sein de la famille autour de cette affaire, et l'idée d'en faire un livre, comme vous le faites aujourd'hui, comment s'est née cette idée-là ?
J'avais cette obsession, depuis que j'ai commencé à comprendre de quoi il retournait, cette obsession de la réhabilitation de Kastner. Et je me suis dit, le seul moyen, c'est un roman, c'est quelque chose d'un peu décalé, avec un peu de recul, qui donnera une lumière un peu artistique, qui peut-être mieux servir cette cause qu'une plaidoirie, il y en a déjà eu beaucoup, ou qu'un argumentaire, enfin voilà. Tomáš, le survivant, est mort ce soir. Tomáš de Vexéry, mon cousin à la mode de Kolozsvár, mon père par intérim, a définitivement cessé de fumer. Lui qui, depuis l'âge de 13 ans, ne respirait que des Rotman bleus, a rendu sa dernière bouffée. Il est vrai qu'il a failli partir en fumée dès sa naissance. Il avait à peine un an quand il a été déporté de Budapest à Bergen-Belsen avec ses parents et Chilou, ma mère qui n'avait que 15 ans. Au terme d'environ 2 mois de concentration, toute la famille parvint à rejoindre la Suisse en septembre 1944 dans un convoi connu sous l'appellation de Train Kastner, du nom du juif qui négocia leur libération.
Merci Yoram pour la lecture du tout début de L'âme au diable, donc, qui paraît chez Viviane Ami et qui prend donc pour fil rouge l'affaire Kastner, dont vous dites que c'est un roman, mais c'est une question. Est-ce que c'est un roman et comment vous l'avez construit ?
C'est un roman et c'est un récit. Il y a des voix mêlées, une partie historique, et puis il y a des parties qui sont plus personnelles, qui sont soit l'affaire, ou en tout cas la vie de membres de ma famille. Il y a ceux que j'ai connus, il y a ceux que j'ai créés. Et ils sont tous là, en fait, pour donner un peu de distance et en même temps de chair à cette affaire Kastner et à cet homme que je considère comme un héros. Ce que j'ai voulu faire aussi en écrivant ce livre, c'est que ce ne soit pas un truc plombant. Encore une histoire de déportation, de mort, d'horreur, etc. Mais que ça se lise avec légèreté. Et donc, il fallait de l'humour.
Et vous en avez mis. Le livre s'ouvre effectivement d'ailleurs sur Tomáš, là, ce fumeur invétéré qui a été une sorte de père adoptif éphémère, comme ça, dans votre vie. Et il se poursuit sur Flora. J'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur votre grand-mère qui aura perdu ses deux parents le dernier jour du pogrom de Lvov. C'était en Ukraine en 1918.
C'est ça, c'est Lvov. C'est aujourd'hui l'Ukraine. À l'époque, c'était la Pologne. Là encore, alors, tout n'est pas absolument exact, tout n'est pas authentique. Mais elle était effectivement orpheline. Elle a été recueillie par une tante. Et là, tout ce ballottement à partir de la rencontre de ce mari, héros de la Première Guerre mondiale, qu'elle a rencontré, qu'elle a épousé, qu'elle a suivi en Hongrie, parce qu'elle n'était pas hongroise, elle était polonaise, jusqu'à sa déportation avec ma mère, donc sa fille unique, et jusqu'à son immigration en Israël, qui n'était encore que les Palestines à l'époque, et enfin son retour en Europe, suivant son mari en Allemagne, à Francfort, alors, où elle est morte.
Flora qui se marie donc avec, on va dire, Giga, c'est ça ?
Giga, oui.
Sigmund, en fait.
C'est Sigmund en allemand, Sigmund en hongrois.
Racontez-nous comment ce Sigmund devient un héros de la Grande Guerre dans les troupes austro-hongroises. Roman, ça, fiction ou réalité ?
Alors, sur les détails, c'est de la fiction. Mais effectivement, il était officier dans la cavalerie austro-hongroise au tout début de la guerre. Et il a été gravement blessé à la jambe, on a failli l'amputer, ça c'est authentique. Mais donc c'était un très jeune officier blessé dans l'un des premiers combats de la Première Guerre mondiale au front et qui s'est retrouvé bombardé général dans la réserve, c'est-à-dire un grade très élevé avec la croix de guerre, donc des décorations qui malheureusement ne lui ont servi à rien. Mais encore une fois, il n'était pas le seul. Il y a eu beaucoup d'officiers qui se sont battus pour l'Allemagne ou pour les alliés allemands comme les Austro-Hongrois et qui, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, se sont retrouvés malgré tout déportés parce que juifs.
Thank you.
Dans L'âme au diable, Yoram Lecoeur, vous déroulez aussi la vie d'une certaine Aggie. Je ne sais pas si elle a existé, non. Alors, véritable personnage, vous en faites une musicienne internée avec votre mère à Bergen-Belsen, qui joue au violon ce Liebeslied, chagrin d'amour, interprété ici par votre fille. Donc je vois que la transmission est bien en route. Aggie, dont vous auriez retrouvé un journal intime.
Oui, donc elle joue dans le roman Liebeslied, ça s'appelle Liebeslied, ça veut dire chagrin d'amour, qui n'est pas en sol majeur, qui est en do majeur.
Ah, dommage.
Et je suis désolé. Et Aggie, en fait, je l'ai inventée, elle n'a pas existé, ou plutôt, c'est pas qu'elle n'ait pas existé. Il existe une jeune fille adolescente que ma mère a vue se suicider dans le camp de Bergen-Belsen. Sauf qu'elle ne connaissait pas cette fille, elle l'a juste vue se jeter sur les barbelés du camp. Elle n'avait ni nom, ni histoire. Et je lui ai donné un nom, une famille, un amoureux. Le nom que je donne aux petits copains, je l'ai pris dans la liste.
Ivan Kassovitz, parce qu'il faut dire que dans ce journal, l'auteur que vous êtes et qui dresse une sorte de sépulture finalement à cette jeune fille de 15 ans, vous faites relater dans ce fameux journal intime, qui est une invention d'auteur, l'obsession de cette Aggie. Elle ne pense qu'à son dépucelage par le jeune Ivan Kassovitz. Très belle idée. Et puis il y a parmi cette galerie de personnages que vous déroulez une certaine Hansi. Alors là, c'est véritablement votre tante, une sioniste, pas très jolie, dites-vous, qui épouse un certain Joël Brandt. Ensemble, ils vont rejoindre en 1943 le VADA, donc cette organisation secrète spécialisée notamment dans les faux papiers. Une organisation dirigée par un certain Kassner. Joël Brandt, qui sera un des premiers négociateurs du train Kassner, et Kassner donc entre en scène. Et là, je crois qu'il faut recontextualiser un tout petit peu cette histoire. Pourquoi Yoram Lecoeur y a-t-il eu un accord possible en 1944 entre un dirigeant nazi tel que Adolf Eichmann et Rezo Kassner, donc avocat juif hongrois, austro-hongrois, pardon, dirigeant le VADA?
Il y a eu un accord parce que en mars 1944, la situation est désespérée pour l'Allemagne. Les nazis savent très bien à ce moment-là que la guerre est perdue. Parce que les troupes américaines sont aux portes de Rome, que les troupes soviétiques sont quasiment en Tchécoslovaquie. Et là, depuis en fait Stalingrad, les hauts dignitaires nazis ont peur. Et parmi ces dirigeants, le ministre de l'Intérieur, le chef de la SS, Himmler, se dit qu'il va peut-être pouvoir sauver sa peau.
Se racheter une conscience pour l'après-guerre.
Se racheter une conduite à défaut d'une conscience, parce que la conscience serait trop chère. Et cette conduite, il pense pouvoir l'acheter grâce à l'antagonisme entre les Américains et les Soviétiques, en tout cas entre l'Ouest et les Anglo-Américains et les Soviétiques, puisqu'il y a déjà en 1944 des arrière-pensées. On sait déjà qu'il y a une compétition pour celui qui avancera le plus loin pour apprendre le maximum de territoire sur l'Europe. Mmh. Et donc Himmler se dit qu'il va pouvoir jouer l'Ouest contre l'Est. Et pour parvenir à ses fins, comme c'est un antisémite notoire, il est persuadé que les Juifs ont des tentacules un peu partout. Et il y a cette organisation qui est une organisation secrète, enfin de résistance en Hongrie, dirigée par des sionistes, des Juifs, qui forcément ont des accès, pense-t-il, auprès des autorités alliées. Et ces Juifs vont pouvoir conduire Himmler à Eisenhower ou même à Churchill. Sauf que les alliés ne voulaient pas du tout négocier le sauvetage de Juifs hongrois. Ce n'était pas leur intérêt.
Ce deal ne les intéressait absolument
pas. Pas du tout, ça ne les intéressait pas. Ils ne savaient pas quoi faire de ces Juifs. 800 000 Juifs, où est-ce qu'on les caserait? Les faire venir en Palestine, ça aurait été une catastrophe parce qu'on avait signé le livre blanc avec les Arabes de Palestine pour endiguer l'immigration juive. Du coup, eux aussi avaient intérêt à empêcher ces négociations. Non seulement ça, mais ils n'avaient pas en fait intérêt non plus à se mettre les Soviétiques sur le dos.
Dossier très complexe, il faut vous lire hein, dans L'âme au diable, Yoram Lecoeur, mais on va dire que même avec 1680 Juifs sauvés des déportations par Kassner, celui-ci ne va pas rentrer en héros en Palestine, puisque après la guerre, vous racontez qu'il habite un petit appartement à Tel Aviv. Il passe pourtant à un cheveu d'être élu député à la Knesset. Lorsqu'éclate une affaire qui va sceller son destin après le procès de Nuremberg.
Oui,
l'affaire... Faut vous la résumer.
J'essaie de résumer au plus serré. Kastner rentre effectivement dans ce qui sera Israël, fait partie du parti au pouvoir, mais des bruits circulent déjà sur le fait qu'il y a eu des négociations, que des choses pas claires se sont produites. Jusqu'à ce qu'un jour, un dénommé Grünewald écrive dans un journal d'extrême droite un pamphlet contre Kastner en disant qu'en gros, il a collaboré avec les nazis. Et le gouvernement comprend bien que ce pamphlet est dirigé contre le parti au pouvoir en général, contre la gauche, se dit qu'il faut réagir et le ministre de la Justice entame une procédure en diffamation contre ce Grünewald, procédure en diffamation que Kastner va perdre malheureusement dans des conditions qui sont affligeantes.
On va écouter un court extrait du procès d'Adolf Eichmann, donc l'artisan de la solution finale. On est en 1961. Lorsque de sa cage de verre, il écoute, vous avez le document en tête, hein, j'imagine, Yoram, il écoute l'œil narquois, la déposition de Yoel Brandt, donc premier négociateur du train Kastner, mari de Hansi, votre grand-oncle par alliance, et qui raconte à la barre et ensuite sous votre plume ses échanges avec Eichmann.
Did he have a uniform on?
SS Offiziers gekleidet. Noch ein Zivilist war dabei, auch sehr elegant.
Yes, he was wearing an extremely smart uniform of the SS officer, and there was another man present who was wearing civilian clothes, who was also spruced up.
Did you then know who the man in civilian clothes was?
Yeah,
no. Do you know it today? Who was it?
At that time I didn't know, but now I do. This was Kurt Alexander Becker.
What happened in that meeting?
Eichmann was standing there in front of the table with his arms akimbo.
Schrie, and bellte mich an. Sie wissen, wer ich bin. Ich, aber die Aktion.
And he bawled at me, if I may say. He barked out. Do you know who I am? I am in charge of the operation.
Le chef de la SS l'attendait assis derrière son bureau, le fauteuil légèrement renversé en arrière, jambes croisées et bottes cirées sur la table. Il tenait dans une main un verre de whisky, l'autre caressant distraitement la crosse du pistolet qu'il portait à la ceinture. Il commença par évoquer posément ses exploits en Pologne et en Tchécoslovaquie, avant d'expliquer à son interlocuteur qu'il était désormais en charge des opérations en Hongrie. Après avoir ainsi décliné son édifiant curriculum vitae, il annonça le début imminent des déportations vers Auschwitz, ajoutant qu'il y avait peut-être encore un moyen de modifier le cours des choses. Il était informé des activités illégales du comité de secours. C'était la raison pour laquelle il faisait justement appel à l'un de ses dirigeants. Brandt pouvait lui servir d'intermédiaire et sauver ainsi sa communauté. En clair, Eichmann expliqua qu'il disposait d'un stock de 800 000 juifs hongrois qu'il était prêt à échanger contre d'autres types de marchandises dont il restait à déterminer la nature. Trois ou quatre autres réunions entre Brandt et l'Obersturmbannführer eurent lieu, au cours desquelles différentes options furent envisagées, comme l'échange de juifs contre de l'argent ou des camions qui serviraient uniquement sur le front de l'Est. Le 15 mai, au cours de leur dernière rencontre, Eichmann avait fixé son prix à 10 000 camions, 200 tonnes de thé, 800 tonnes de café, 2 millions de caisses de savon, du tungstène et autres biens à déterminer. En guise d'acompte, il consentait à envoyer un premier convoi de 20 000 juifs au camp de concentration de Strasshof en Autriche plutôt qu'à Auschwitz.
Merci Yoram Lecker pour cet extrait de L'âme au diable, page 42, page 43. En fait, ce qui sera reproché à Kassner par ce petit hôtelier répondant au nom de Gruenwald, c'est d'être intervenu en faveur de Kurt Becher au procès de Nuremberg. Il faut nous rappeler qui était Kurt Becher.
Alors, Kurt Becher était l'officier chargé par Himmler de surveiller ce que faisait Kassner. Mais Kurt Becher était aussi nommé par Himmler pour surveiller un peu Eichmann, parce qu'Himmler sentait bien qu'Eichmann n'était pas très investi dans cette opération de négociation. Et quant à Becher, il jouait sa propre partition. C'était un homme intelligent, il avait parfaitement compris qu'il fallait s'acheter une conduite et que la guerre était perdue. Et donc il a aidé effectivement Kassner dans ses opérations. Il a effectivement contresigné des télégrammes mensongers. Et par conséquent,
c'est à partir de ce mensonge que Kassner décide de plaîder en faveur. Tout ça entre...
C'est ça, c'est-à-dire qu'il a effectivement été aidé. Il a promis d'ailleurs à Becher, en contrepartie de son aide, de témoigner en sa faveur au moment des procès d'après-guerre dont on savait déjà qu'il se profilait. Et au cours de son procès, c'est l'une des choses les plus graves qui lui a été reprochée. On lui a dit, mais vous avez témoigné en faveur d'un nazi, parce que Becher, avant d'avoir aidé Kassner comme il l'a fait, avait été un nazi sanguinaire qui avait commis des crimes atroces sur le front ukrainien, sur le front russe, au début de la guerre. Donc il a dû faire partie d'ailleurs des opérations de la Shoah par balle. Enfin, et en Israël, à cette époque, au moment du procès, c'était une accusation extrêmement lourde. On n'avait pas en tête les conditions réelles dans lesquelles les Juifs se trouvaient en Hongrie au moment de ces déportations. Et donc, on a mis ça à sa charge.
Avec un contexte aussi particulier à l'époque, vous dites qu'aux yeux d'un Israélien moyen dans ces années-là, les années 60, les millions de Juifs assassinés par les Allemands n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mêmes.
Oui, au début des années 60, effectivement, et ma mère me l'a souvent dit, il n'était pas de bon ton de parler de sa déportation et de se plaindre. On était déjà dans une optique, en fait, de création d'un État. Il fallait, en fait, un juif héroïque. Et le juif souffreteux du ghetto n'était pas le bon exemple, ne faisait pas l'affaire, en fait. Et donc, il fallait l'évacuer. Et c'était donc l'ambiance à l'époque où les Juifs immigraient en Israël et devaient changer leur nom européen pour avoir un nom israélien. Ce que ma mère a fait, ce que mon père a fait aussi. Oui, donc je raconte oui. Effectivement ça.
Oui, tout ce contexte pèse aussi moralement sur cette affaire Kassner. Mais en tout cas, toutes ces vies que vous déroulez, Yoram, de Juifs hongrois sauvés par ce fameux contrat Kassner, sont évidemment autant d'arguments qui plaident en faveur de Kassner lui-même. Donc au fond, la question philosophique que l'avocat est en droit de se poser sur cette affaire, c'est laquelle ? Quelle est la question philosophique de l'affaire Kassner ?
À mon sens, il n'y a pas de question philosophique sur l'affaire Kassner. On a voulu en faire une question qui est celle de savoir si il est acceptable de négocier avec l'ennemi, mais avec qui d'autre peut-on négocier qu'avec l'ennemi ? Et il y avait effectivement en Israël cette idée que les Juifs du ghetto de Varsovie, ceux qui sont morts en clair, sont les héros, ceux qui ont survécu, ne méritent pas ce qualificatif. Or, encore une fois, le seul moyen de s'en tirer, c'était de négocier, c'est ce qu'on fait tous les justes, d'une certaine manière, en tout cas des justes comme Schindler, qui n'était pas juif. Kassner n'était pas en situation, il a risqué qui plus est sa vie. Et donc les reproches qui lui ont été faits sont totalement infondés. Et je ne vois même pas par quel argument philosophique on pourrait soutenir le contraire.
C'est l'avocat du diable qui parle. Donc aux yeux de la droite israélienne, on ne peut pas négocier avec l'ennemi, qu'il soit nazi, mais vous semblez dire que c'est peut-être la même logique qui bloque aujourd'hui les négociations avec les Palestiniens.
Je dis ça, effectivement. C'est vrai que, de manière générale, la droite en Israël, qui n'a rien à voir avec la droite française, on ne peut pas comparer quand on parle de droite et de gauche en Israël avec ce qui se passe en France, a toujours été réfractaire à des négociations avec l'ennemi, considère que c'est une compromission et qu'il ne faut pas négocier. Je pense qu'elle a profondément tort et que ce n'est pas dans l'intérêt de ce pays.
L'âme au diable, donc, qui paraît chez Viviane Ami, avec encore cette question. Quel lien il peut y avoir entre Aggie, cette jeune musicienne déporté à Bergen-Belsen, mais c'est un personnage, et une certaine Madame Butterfly.
Donc c'est un personnage que j'ai créé à Guy, comme je l'ai dit. J'en ai fait une musicienne et je m'identifie évidemment beaucoup à elle. C'est pour moi une femme idéale. J'ai mis un peu de moi-même dans Guy. Et j'aime beaucoup Madame Butterfly. Et je pense qu'effectivement, dans cet opéra, il y a ce moment que je raconte qui est une rupture dans l'orchestre au moment où Madame Butterfly apprend ou comprend plutôt que son mari ne reviendra jamais, ce qui est le fond de la tragédie de cet opéra. Il y a un coup de timbale suivi d'un silence de mort. Et j'évoque ça parce que Agui, étant une musicienne, a joué Madame Butterfly avec son orchestre et a été très marquée par cet opéra. Et s'est elle-même beaucoup identifiée à cette héroïne qui se suicide à la fin, puisque Madame Butterfly meurt par Harakiri. Et d'une certaine manière, Agui aussi, puisqu'elle se rue sur les barbelés du camp et qu'elle se tue pour finir.
Puccini en sol majeur et dans le chœur familial de Yoram Lecker avec une Madame Butterfly inspirante, je crois, pour les âmes errantes. Encore un petit mot sur votre mère, Chilou, qui donc aura été sauvée des camps par le train Kassner lorsqu'elle débarque à Haïfa. Elle qui n'était pas une grande sioniste, hein, c'est ce que vous dites. Elle vit comment son arrivée là-bas ?
Je raconte qu'elle vit son arrivée très mal, ce qu'elle nous a toujours dit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a quitté Israël. Elle vient d'une famille de personnes persécutées, mais qui fondamentalement était européen et n'avait pas du tout de velléité sioniste. Et donc son arrivée en Israël s'est pas bien déroulée. Elle parlait très mal l'hébreu, voire pas du tout. Il a fallu qu'elle prenne des cours. Elle était blonde, aux yeux bleus. Ce qu'elle nous a toujours raconté, c'est qu'elle a été reçue par des gens qui l'insultaient, qui lui disaient qu'elle se la coulait douce pendant que eux, à coups de bêche, en trimant et à la sueur de leur front, ont construit ce pays, ont attrapé la malaria, et que maintenant elle arrivait dans un petit cocon, un pays tout fait, alors qu'elle ne considérait pas du tout ce pays comme un cocon, ni comme un endroit tout fait, mais au contraire, comme un lieu où il était vraiment dur de vivre et dans lequel elle ne souhaitait pas rester, en fait.
S comme spleen ou saudade.
Je dirais plutôt spleen, ça me parle un peu plus, parce que c'est, je pense, beaucoup dans la mentalité juive ashkénaze.
Oui, mais il y a aussi une pirouette hein, dans la tête. Hein, quand je vous ai eu au téléphone, d'ailleurs, on a évoqué ensemble l'humour d'un célèbre hypochondriaque qui mettait en scène sa paranoïa de cette manière dans Annie Hall.
Je l'ai entendu distinctement qui murmurait sur le souffle « juif ».
T'es cinglé ?
Non, pas du tout. Nous quittions le cours de tennis, tiens. Tu vois, il y avait lui, moi et sa femme. Il l'a regardé, et puis tous les deux, ils m'ont regardé, et sur le souffle, il a murmuré « un juif ».
Lui, t'es parano jusqu'à la moelle.
Comment ça, parano ? Mais j'ai des antennes pour ça, moi. Tiens, je déjeunais avec des types de chez NBC. Alors, je dis à un gars, t'as déjà mangé ? Alors l'autre, là, Tom Christie, me fait « tu viens pour le rab, hein ?» Pas le rabio pour le rab, mais rabbin. Pas « tu viens pour le rab », mais pour le rabbin. Rabbin, tu piges, rabbin.
Ah, du schmoll, t'es complètement...
Non, m'appelle pas du schmoll.
Pourquoi ? Du schmoll, ça te va bien. Du schmoll, t'as vraiment la manie de la persécution.
Non, non, détrompe-toi. Tiens, un autre exemple. Je vais chez un disquaire. Écoute celle-là. Alors, je tombe sur une grande bringue, blond, cheveux en brosse, à la para. Il me ziote avec l'œil qui frise, tu vois, tout sourire. Et il me dit, fouille, nous cassons les prix cette semaine sur les Fagner. Fagner, du schmoll, Fagner. J'ai tout de suite entendu le bruit de bottes qu'il y avait derrière ça, sa façon de dire Fagner.
Bon coup, du schmoll. La Californie, du schmoll. Dirons-nous dardard de cette ville de dingo.
Ah, zéro, du schmoll.
Propulsons-nous au soleil de Los Angeles. Le showbiz, c'est là qu'il est, du schmoll.
Mais c'est pas possible. Tu ramènes ça sur le tapis. Moi, je ne veux pas vivre dans une ville dont le seul avantage culturel soit de pouvoir aller faire un petit tour à droite dès qu'il y a un feu rouge.
Ok, du schmoll, une croix dessus. Dis donc, tu vas pas faire attendre Annie ?
J'ai rendez-vous avec elle devant la cinémato. Apparemment, il me reste quelques minutes.
Woody Allen, alors est-ce que c'est un petit peu vous, Yoram Laker ?
Je pense que c'est beaucoup moi. En tout cas, j'aimerais que ce soit moi.
Vous avez la maladie de la persécution ?
J'ai pas la maladie de la persécution, mais je partage avec lui l'hypochondrie, malheureusement. Et c'est pour moi un vrai modèle, parce que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'en rire. Et c'est un grand spécialiste du rire.
Car votre héritage, il est lourd.
C'est effectivement ce que je dis à la fin du livre. Je parle de cette honte que ma mère nous a transmise, qui est ce ticket du train Kastner, effectivement, parce qu'on a beau se raisonner, on a beau justifier, il y a quand même ce poids de ce jugement, de cette animosité contre Kastner, qui fait que les survivants trimballent avec eux ce sentiment de culpabilité. Le fait même d'avoir survécu là où la majorité sont morts, c'est louche, où il y a quelque chose, en tout cas, de pas acceptable. Et plus encore pour les survivants de Kastner. Alors, il y a une transmission. C'est sûr que la génération suivante s'est retrouvée en charge de ça. Vous dites que c'est lourd. Oui, c'est lourd, mais je pense que tout le monde, de toute façon, porte sa croix.
Le fait que votre grand-père maternel s'appelle Leb, ce qui veut dire cœur hein, en hébreu, ça donne du baume au cœur, c'est le cas de le dire, non ?
Ça donne du baume au cœur, ça donne aussi de la névrose cardiaque. En fait, Leb, le B en hébreu est à la fois B et V, et Lev, effectivement, ça veut dire cœur. Et ça renvoie au cœur et au courage.
Vous avez des problèmes cardiaques, sérieusement ?
Non, j'ai pas de problème cardiaque, mais j'ai toujours cru que j'en avais.
Signé Woody Allen. Sans parler de ce grand-père paternel Hermann, qui a fait son droit à Vienne, et qui a eu une liaison avec une certaine Paula.
C'est extraordinaire, mais c'est vrai.
Qui était Paula ?
Donc Paula était la sœur d'Hitler. Et nous avons appris ça sur le tard, c'est-à-dire que mon grand-père était dirigeant de l'association de l'université de droit qui gérait la cantine de cette université. Et en cette qualité de président de cette association, il a un jour embauché une serveuse à la cantine. Et cette serveuse était Paula Hitler, avec laquelle il a eu une liaison. Elle avait 2 ans de plus que lui. Et il n'a jamais raconté cette histoire. Il a fallu qu'il meure pour que, sur sa tombe, son enterrement, un de ses amis nous raconte l'histoire.
Et alors, qu'est-ce que vous faites de cette une de plus pirouette historique ?
Une de plus pirouette, oui. Parce que, effectivement, quand j'ai lu dans une biographie très fouillée d'Hitler qu'il avait une sœur Paula et que cette Paula, effectivement, travaillait à l'université, là, je me suis dit, mais véritablement, mon grand-père a eu une liaison avec la sœur d'Hitler. Et si de cette liaison était issu un enfant, cet enfant aurait été mon oncle. Et j'aurais été le neveu du neveu d'Adolf Hitler. Ce qui est quand même assez fou.
Quel est votre coin de hamac préféré?
Pour dire la vérité, j'ai aucun coin préféré. Je suis très mal dans un hamac, qui est le symbole en fait de la détente, une espèce de laisser aller, de lâcher prise. Or, je suis au contraire quelqu'un, puisqu'on parlait de Woody Allen, plutôt dans la tension permanente. Ouais. Donc un hamac, c'est pour moi un lieu très étranger.
Je vous emmène alors là où vos oreilles préfèrent traîner. Pourquoi Tel Aviv alors ?
Tel Aviv parce que j'y suis né. Mon sol majeur, c'est la France, mais c'est mon sol mineur. Et dans le sol mineur, il y a l'affect. D'abord, c'est ma langue maternelle, l'hébreu. C'est la langue dans laquelle j'ai été bercé dans ma toute petite enfance, qui est la seule langue que je parlais. J'ignorais même qu'il en existait d'autres. C'est une ville aujourd'hui qui a énormément changé, qui est une ville cosmopolite, qui est une sorte de New York. Une ville magnifique, une ville que j'aime par-dessus tout, dans laquelle se côtoient toutes sortes de communautés, des homosexuels, qui est une ville qui n'est pas religieuse, d'une grande tolérance, qui fait partie d'un pays que j'aime fondamentalement, Israël, et qui me ramène à mon enfance nécessairement.
Depuis ce marquage de l'histoire, la grande, c'est quoi votre vision ou votre idée de la nation ?
Moi, vous savez, j'ai été élevé dans la méfiance des nations, du nationalisme particulièrement. Les drapeaux, les bras qui se lèvent, les poings qui se ferment en signe de ralliement. Dans notre famille, ça a toujours été des points de fuite, des feux rouges à éviter absolument. Donc oui, je n'ai pas de philosophie nationaliste a priori, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert sur le monde, même si le monde est constitué de nations et qu'il faut faire avec, et qu'on ne peut pas faire table rase des nations.
Merci Yoram Lecoeur d'être cet avocat du diable pendant les 280 pages de L'âme au diable, avec une question en filigrane, une question philosophique qui avait été un sujet de bac littéraire pour vous. Peut-on ne pas être soi-même ? Je ne sais pas si vous avez la réponse depuis. Pour se quitter en tout cas, on va devoir, vous allez devoir couper votre cœur en deux. Est-ce qu'on se quitte avec Harry Belafonte, Land of the Sea and Sun, ou avec Bob Dylan, Hard Rain ?
Eh bien, on va faire dans le tragique plutôt, et on va prendre Bob Dylan avec Hard Rain.
Tragédie un jour, tragédie toujours.
C'est ça.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love.
Bob Dylan en sol majeur, émission, vous le savez, à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio et bien sûr sur nos réseaux sociaux en cliquant sur Facebook ou sur Twitter, et à retrouver chaque samedi et chaque dimanche derrière votre poste à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on se retrouve demain avec Marianne Yemsi. À demain.
Tous les cinémas du monde.